Ici à l'UDS, c'est le balado qui va te donner toutes les clés pour une arrivée réussie à l'université et au Québec. On parle de tous les sujets lorsqu'on immigre et on te donne les ressources pour répondre à tes questions. Tu écoutes un nouvel épisode d'Ici à l'UDS. Ben bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Félix qui est conseiller en recrutement pour Sherbrooke International. Donc aujourd'hui tu viens nous parler surtout des admissions au premier cycle, notamment donc au baccalauréat. Déjà le baccalauréat c'est quelque chose qui est différent comparé à d'autres pays, là c'est pas les mêmes niveaux. Baccalauréat dans le fond c'est au premier cycle, le début de l'université si on peut dire. Donc tu viens nous parler de tout ça aujourd'hui puis nous donner quelques précisions sur les admissions notamment.
Exactement, effectivement le premier cycle comme on l'appelle ici, on est près du ce qu'on appelle communément au Québec baccalauréat. C'est en fait, là, on pourrait dire niveau licence, bachelor en fait. Donc, c'est vraiment le début effectivement de l'université, tout à fait.
Mm-hmm. Puis, c'est compliqué une admission ou pas à l'Université de Sherbrooke ou en général? Qu'est-ce que ça prend une admission?
En fait, là, ce que ça prend, bien, en premier, il y a beaucoup d'informations. Hein, c'est ouais. Ça? Est-ce que c'est compliqué? Oui et non. En fait, là, il y a beaucoup d'informations sur les sites web. En premier, en fait, je dirais ce qui est le plus important avant de... on pourrait dire déposer la demande d'admission en ligne, ce qu'on appelle peut-être souvent, peut-être en France ou ailleurs, l'inscription. Oui. Ici, la demande d'admission, c'est vraiment pour que notre dossier soit analysé. Pour faire ça, il faut la déposer en ligne sur le site de l'Université de Sherbrooke. Mais il faut aussi, en fait, là, avant de faire ça, il faut vérifier un peu son admissibilité, finalement. Est-ce qu'on est prêt pour déposer la demande? Est-ce qu'on est dans les temps? Parce qu'il y a des dates limites aussi particulières selon le trimestre d'admission, selon le programme aussi, avec quelques exigences. Bref, on pourrait aller dans le détail. Mm-hmm. Que la première des choses, vérifier son admissibilité, c'est vraiment ce qui est le plus important à faire. Là, avant de procéder puis de déposer la demande ensuite.
Puis c'est quoi des exemples de conditions qui peuvent être exigées? Ça doit varier selon les programmes, j'imagine, mais est-ce qu'il y en a qui sont comme plus récurrentes? Est-ce qu'il y a par exemple des demandes si je veux faire un certain type de baccalauréat, est-ce qu'il faut que j'ai un certain diplôme avant? À quoi ça ressemble à peu près?
Très bonne question. En fait, oui, dans la majorité, pour les programmes de baccalauréat québécois, il faut avoir souvent un programme de baccalauréat, par exemple français ou encore... qui équivaut à ce qu'on appelle 13 ans de scolarité. Donc, finalement, un baccalauréat, peu importe les... Souvent, c'est un peu ça le terme, en fait. Là. Mm-hmm. Baccalauréat à l'international. Donc, okay. C'est ce qui fait que ça permet d'être admissible au programme. Donc, c'est-à-dire, on a cette condition-là où notre dossier pourrait être analysé. Mais évidemment, comme des fois, ce n'est pas le cas dans certains pays, ici, à l'Université de Sherbrooke, il faut avoir des études similaires, en fait, dans le domaine visé. Donc, par exemple, si on vise un programme en faculté des sciences, bien, il faut, en fait, là, avoir cette particularité-là aussi déjà dans nos études. Donc, si on a un bac S, par exemple, ou en fait, baccalauréat avec des spécialités scientifiques, donc physique, chimie, mathématiques, ou encore SVT, sciences vie et terre, finalement, bien, il faut avoir ces spécialités-là déjà dans le cadre du bac, pour finalement ensuite être admissible au programme de sciences. Oui. Même chose au programme de génie. Mais là, évidemment, un baccalauréat avec des matières scientifiques, c'est important.
Mais oui, avoir une base, en fait, tout
exactement,
simplement.
Exactement. Il faut vraiment viser un peu la continuité de ce qu'on a déjà fait. Okay. Donc, lorsqu'on a fait des programmes, c'est ça, en administration des affaires, ben, un bac avec des mathématiques, des spécialités mathématiques ou communément économique sociale anciennement, ben, il faut en fait là, déjà avoir cette lignée-là dans notre cadre de baccalauréat dans notre pays pour ensuite de ça viser à être admissible au programme.
OK. Puis, à combien de temps à l'avance je dois m'y prendre? Parce qu'il y a différents, selon les baccalauréats, on peut rentrer à différents trimestres, comme tu le disais. Donc, hiver, c'est janvier, si je ne me trompe pas à peu près. C'est quoi déjà les... Parce que ça ne fonctionne pas partout pareil. Il n'y a pas des sessions d'été partout pareil aussi. Comment ça fonctionne déjà ça? Puis après, quand est-ce que je dois demander en fonction de mon trimestre?
Très bonne question. Ben oui, effectivement, ben, côté des trimestres d'admission, en fait, ils vont varier selon l'entrée aux études à l'Université de Sherbrooke. Donc, par exemple, si on vise le trimestre d'automne, ce qui est à noter, en fait, là, puis ça, c'est une particularité québécoise, on appelle ça des trimestres, mais en fait, c'est des sessions de 4 mois. Donc, ce qui fait que si on vise le trimestre d'automne, donc une rentrée à l'automne, la rentrée de l'automne débute finalement à la fin août jusqu'à la fin décembre. Pour le trimestre d'hiver, c'est de janvier jusqu'à la fin avril et le trimestre d'été, c'est de mai à la mi-août. Ça, c'est des trimestres lorsqu'on est en scolarité, lorsqu'on fait les cours à l'université, c'est dans ces moments-là que ça se passe. Pour la demande d'admission, il faut la faire vraiment d'avance. On parle de 6 à 8 mois, en fait, à l'avance.
Okay.
Donc, il faut vraiment s'y prendre très tôt parce que les dettes limites sont effectivement très, très rapprochées, en fait. Mm-hmm. Là. Par exemple, pour si on veut une admission au trimestre d'automne, donc si on vise rentrer finalement en fin août, il faut faire la demande au plus tard le 15 janvier de la même année.
Okay.
Donc, par exemple, pour le trimestre, si on voulait une admission pour l'automne 2025, mais il faudra faire la demande avant le 15 janvier 2025. Donc, il faut vraiment la faire très tôt, en fait. Là. Après le 15 janvier, il ne sera plus possible de déposer la demande d'admission. Les programmes seront fermés aux demandes d'admission pour les étudiants internationaux.
Okay.
Puis pour le trimestre d'hiver, par exemple, si on souhaite débuter ses études en janvier à l'Université de Sherbrooke, mais il faut faire la demande au plus tard, le 1er juin, en fait. Là.
Okay.
Donc, 1er juin 2024, pour janvier 2025. Donc, il faut vraiment penser d'avance. Évidemment, on peut la faire plus tôt que ça. On peut la faire pour le trimestre d'automne en décembre, novembre, octobre ou septembre.
Dès que c'est ouvert, dans le fond.
Exactement.
Puis, est-ce qu'il faut quand même faire attention que ce soit bien mentionné pour les étudiants internationaux? Parce que j'imagine qu'il y a des dates limites aussi pour les Québécois. Mais est-ce qu'elles sont les mêmes? Sûrement pas. Fait qu'il faut vérifier quand même ça aussi.
Oui, effectivement. Les formations que je donne, c'est vraiment ciblé aux étudiants internationaux. Donc, on parle vraiment des... c'est 15 janvier pour le trimestre d'automne, 1er juin pour le trimestre d'hiver. Pour les étudiants québécois ou encore qui ont la résidence permanente ou la citoyenneté canadienne,
c'est autre chose.
Okay. Le délai est un peu plus court, comme il n'y a pas toutes les démarches de papier légaux à faire aussi.
Puis combien de temps après avoir déposé sa demande, on peut espérer une réponse positive ou négative?
En fait, les analyses de dossier, lorsqu'on dépose la demande, par exemple, en octobre, si on la dépose en octobre pour le trimestre d'automne, mm-hmm. suivant. Donc, on est dans le délai, finalement.
Ouais.
Les analyses de dossier s'effectuent souvent là, en janvier, février et mars.
OK.
Donc, c'est vraiment dans ces moments-là qu'on peut penser obtenir une réponse. On souhaite une réponse positive, on le souhaite,
ouais,
mais
oui.
Bon, des fois, c'est ça dépend des particularités. Donc, c'est ça, il va y avoir cette analyse-là va se faire à ce moment-là. S'il y a des pièces qui sont manquantes au dossier, ça sera envoyé par le bureau d'enregistreur lors de l'analyse de dossier. Donc,
okay.
On va vous indiquer, vous devez nous fournir tel relevé de notes de telle année pour qu'on puisse continuer l'analyse de dossier. Ça, c'est important de regarder ses mails un peu, finalement,
oui.
D'être au courant de ça. Puis, c'est ça, en même temps, il faut aussi, c'est ça, pour bien faire les choses, pour vraiment vérifier son admissibilité. Est-ce que j'ai la bonne formation pour viser le programme? Est-ce que j'ai un bagage en sciences pour aller viser des programmes scientifiques, par exemple, mm-hmm. ou en mathématiques pour l'administration? Ou bref, on comprend le principe.
Ouais.
Est-ce que j'ai la moyenne requise aussi? La majorité du temps, ça, c'est la question.
Oui, puis surtout que les moyennes ne sont pas pareilles ici que dans d'autres pays. Ici, c'est comme sur 4,3. Beaucoup se demandent pourquoi aussi. Fait, comment on fait pour calculer ça? T'sais, comment je fais pour savoir si... Parce que moi, peut-être que ma note va être super bonne dans mon pays d'origine, mettons la France, puis qu'ici, ça va... T'sais, comme un 70%, ça fait 14, par exemple. C'est bon en France. Ici, 70%, c'est limite, là. Déjà, c'est une grosse question qu'il faut se poser aussi, j'imagine.
C'est effectivement la relativité culturelle dans les notations, effectivement, elle est importante. Puis en fait, on travaille fort à Sherbrooke International pour sensibiliser.
Ouais.
Mais pour donner un ordre d'idée, généralement, on exige environ 12 sur 20.
Okay.
Il y a certains programmes qui exigent un peu plus, 13 ou 14. La liste, elle est d'ailleurs en ligne là-dessus. Là.
Okay.
On a les critères, ce qu'on appelle les cotes minimales pour l'admission. Ça, on pourra indiquer les liens là, dans tout ça.
Oui.
C'est indiqué sur le site de l'Université de Sherbrooke, mais généralement, on parle d'avoir en moyenne 12 sur 20 pour être admissible. Ça ne veut pas dire être admis, mais pour que notre dossier soit analysé, il faut vraiment 12 sur 20, c'est souvent un minimum, en fait, là, pour les programmes.
OK. Parce que c'est ça, tu insistes beaucoup sur le fait pour qu'il soit analysé. C'est quoi la différence, en fait? Ils regardent notre dossier, puis après, on est admissible ou pas. Comment ça fonctionne, tout ce processus-là?
Oui, c'est ce que j'ai fait durant... C'est ça, moi, ça fait déjà 7 ans que je suis à l'université.
Okay.
En fait, 8 ans maintenant. Puis j'ai fait 5 années à l'admission au programme de premier cycle, donc au baccalauréat à l'Université de Sherbrooke. Ça fait 3 ans que j'étais à Sherbrooke International, mais auparavant... J'ai fait 5 années là, lors de l'analyse des dossiers.
Donc, tu t'y connais. Tu es la bonne personne pour nous répondre.
Je l'ai déjà fait.
Fait qu'à quoi ça ressemble?
Ben, en fait, on vient vraiment analyser les moyennes, en fait, des fois... ça dépend beaucoup selon les programmes. Hein. Certains programmes, par exemple, si on regarde vers le baccalauréat en administration des affaires, l'Université de Sherbrooke, on va regarder les moyennes des fois en mathématiques, de première, de terminale. On va regarder également les moyennes générales aussi dans tout ça. Mm-hmm. Puis tout en faisant aussi une certaine relativité des notes, des fois le rang peut nous aider à indiquer à quel point la moyenne est, le résultat de l'étudiant est fort. Versus, finalement, la moyenne générale. Donc, ça aussi, ça vient aider comment cette certaine relativité des notes. Mais en même temps, il faut vraiment penser, par exemple, pour le baccalauréat en administration des affaires, on parle de 13 sur 20 pour cette année, ce qui est, on le sait, élevé. Mais bon, c'est les exigences du programme.
OK. Puis, est-ce que, parce que dans les autres pays, là, on pense beaucoup que, tu sais, nord-américain, on est beaucoup sur l'implication, etc. Ouais. Est-ce que c'est important quand on dépose un dossier d'admission ou c'est vraiment juste les notes? Qu'est-ce que je dois mettre dans mon dossier d'admission? C'est quoi les documents requis?
Pour les documents requis, en fait, on va avoir différents. Ben, je peux parler des documents pour l'analyse de dossier. Évidemment, la liste entière, elle est sur le site. Mm-hmm. Mais si on parle pour l'analyse de dossier strictement, on parle vraiment des relevés de notes de seconde, de première, de terminale, ainsi que l'examen du bac.
Okay.
Donc, côté de l'examen du bac, puis évidemment, les relevés de notes de terminale, on comprend que lorsqu'on est à la fin de sa scolarité de terminale, on n'a pas toutes les relevés de notes et c'est normal.
Ouais.
Mais on peut quand même déposer la demande.
Donc, OK, c'est bon à savoir. Si je suis encore en cours d'année, je peux quand même déposer ma demande, mais vu que vous allez savoir que je suis en cours d'année, ben, c'est logique pour vous là, que je n'ai pas tous mes documents.
Ça sera pris en compte, tout à fait.
Okay.
Dans ce cas-là, on prendra les trois trimestres de première, plus le premier trimestre de terminale qui aura été délivré souvent en janvier, mi-janvier, fin janvier. C'est là qui est envoyé aux étudiants, finalement, aux candidats pour l'admission. Donc, ce qui fait qu'on prendra ça en compte. Donc, on n'a pas besoin d'avoir terminé le bac pour quand même soumettre sa demande d'admission.
OK, c'est bon à savoir, là, on ne perd pas un an grâce à ça.
Fort heureusement.
Parfois, c'est un peu stressant. Fait que j'ai mes notes et après ça, qu'est-ce que je peux faire pour gonfler mon dossier d'admission? Si, mettons, ma moyenne est comme un peu sur le bord, mais que j'ai vraiment envie d'être ici, est-ce que des implications, ça peut faire changer la donne ou pas vraiment?
C'est une bonne question, effectivement. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les collèges américains. C'est beaucoup ce qu'on voit, l'implication extrascolaire, ce qu'on appelle. Malheureusement, ici, c'est très... très objectif comme analyse, je devrais dire. Donc, ce qui fait qu'on se fie uniquement sur les relevés de notes.
Okay.
Donc, tout ce qui est des implications extrascolaires, c'est très bien. Ça apporte certainement au cheminement personnel, mais l'admission s'effectue vraiment sur la moyenne académique. Il n'y a pas autre chose qui est pris en compte pour le premier cycle, assurément. Pour les programmes de l'admission au baccalauréat ici à l'Université de Sherbrooke, c'est uniquement sur les... finalement, sur les notes, les relevés de notes, tout à fait.
OK. Puis, si, par exemple, j'ai fait comme une pause dans mes études après mon bac dans un autre pays, puis que j'ai 22, 23 ans et que je veux recommencer un bac ici à l'Université de Sherbrooke en état international, est-ce que ça prend les mêmes pièces de justification? Est-ce que vous avez besoin d'autre chose, de savoir ce que j'ai fait pendant ces années-là? Comment ça fonctionne? Parce qu'il y a beaucoup de retours aux études ici. Mais les internationaux, est-ce que ça peut être le cas aussi? Comment ça fonctionne?
Il n'y a pas d'âge limite pour déposer une demande d'admission ni entreprendre des études. Donc, ça veut dire qu'on peut déposer la demande. C'est vraiment pas du tout un facteur qui est pris en compte l'âge de la personne. Puis il n'y aura pas de questions qui seront posées nécessairement sur ce qu'elle a fait entre la fin, par exemple, de son diplôme de baccalauréat ou de licence.
Okay.
Ça ne sera pas analysé. Et on regarde vraiment uniquement la moyenne académique, par exemple, du bac. Et puis s'il y a une licence qui est complétée ou est en train d'être faite, on regardera ça également, mais c'est uniquement les relevés de notes qu'on regarde, pas de justificatif, puis l'âge n'est pas un facteur discriminant, pas du tout.
OK, fait qu'il faut juste travailler à l'école, dans le fond, pour être admis. Est-ce qu'il y a des programmes qui exigent une entrevue, par exemple, ou pas du tout? Là, c'est juste, vous faites juste à base de dossiers qui sont sur papier?
Ça se fait vraiment sur la base des dossiers papier,
uniquement?
Oui, tout à fait. Donc, ce qui fait que les analyses, les entrevues se font... Bien, il y a un seul programme, du moins pour les étudiants internationaux qui le demandent, le doctorat en médecine. Mais ça, bon...
C'est pas le premier cycle, oui.
C'est un programme communément de premier cycle. C'est un doctorat de premier cycle de médecine. Mais il y a un seul étudiant international qui est pris par année. Donc, on comprend qu'il faut avoir 18 sur 20.
Oui, c'est ça. C'est très contingenté, là, comme programme.
Mais autrement, il n'y a pas de processus d'entretien, par exemple.
Fait que c'est un stress en moins, ça, quand même, parce que ça peut stresser quand même beaucoup de gens, là, l'admission avec tous les papiers et tout ça.
Rien ne nous empêche toutefois de venir nous voir en France ou encore en Belgique ou encore les pays de l'Afrique, par exemple Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc, Tunisie. C'est souvent des pays qu'on fait lors de l'automne.
Ouais.
C'est ce que mes collègues Yacine Tabet aussi va faire à l'automne prochain. Okay. Donc là aussi, les dates, on va les indiquer en ligne. On fait cette tournée-là à chaque année. Donc, c'est pas
une entrevue. Pour parler un peu de l'université, puis rencontrer des étudiants et étudiantes, c'est ça?
Exactement. On est vraiment là pour répondre aux questions des étudiants. C'est vraiment une... Puis il n'y a pas que nous, il y a aussi les autres universités du Québec. Mais en même temps, ça peut être un bon moment pour en savoir plus sur les études internationales, sur l'Université de Sherbrooke. Nous, on sera là à l'automne, en octobre, en novembre, France, Belgique, Côte d'Ivoire, Sénégal.
Juste suivre sur le site. Puis je reviens sur tout à l'heure parce qu'à un moment, tu mentionnais que le bureau de la registraire, qui est comme un petit peu l'administration de l'université avec qui on va après gérer tout ça, dans le fond, qui pouvait nous demander des pièces manquantes, etc. Est-ce que ça se peut qu'on ait comme une intention de refus? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est uniquement oui ou non? Ou il peut y avoir oui, peut-être, si vous nous envoyez... Comment ça fonctionne là-dessus?
Oui, en fait, il n'y aura pas... comme je peux dire ça, lorsqu'on soumet un dossier pour la demande d'admission, on analyse, évidemment, comme les conseillers à l'admission, mes collègues... analyse les dossiers avec la moyenne académique.
Ouais.
Donc, on disait première, terminale, examen du bac. S'il y a des relevés de notes qui sont manquants, on les demande. Lorsqu'on demande ces relevés de notes-là, ça indique, c'est une lettre qui indiquera finalement une lettre, mais en fait, un courriel, un mail finalement, qui indiquera simplement de fournir X style relevé de notes pour qu'on puisse poursuivre l'analyse du dossier. Donc,
pas un oui, c'est pas un non, c'est juste on a besoin de plus pour continuer.
Exact. Okay. Parfois, lorsque, par exemple, un étudiant est en terminale actuellement, les notes de première sont très bonnes, les notes du premier relevé de notes de terminale est bonne également, on peut faire des offres conditionnel, donc ce qu'on appelle un peu une préadmission, si je ne me trompe pas.
Oui.
Donc, c'est cette lettre-là, on fera une préadmission sous condition d'obtenir, par exemple, 13 sur 20 à l'examen du bac ou bref. Okay. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire aussi.
Okay.
Donc, ce qui fait que c'est s'il y a cette intention d'admission-là, ça sera sous condition, finalement.
Puis sous condition, ça ne change en rien pour après la demande de documents, visa, etc. Là, ça ne change rien sur les papiers parce qu'ils nous demandent la lettre d'admission. Est-ce que si elle est sous condition, ça change quelque chose ou pas de stress à avoir là-dessus?
C'est une bonne question. C'est malheureusement des informations que je n'ai pas.
OK. Il faudrait demander au service frontalier du Canada.
En fait, on a des conseillers en immigration pour étudiants étrangers ici à l'Université de Sherbrooke.
Oui.
Des CRIC ou CRIER, comme on l'appelle. En fait, là, ma collègue Molly Blouin en est une.
Qui était venue nous parler déjà de ça. Fait que,
C'est vraiment elle qu'il faut consulter pour ça. Mais évidemment, on sera, nous, présents là, sur place aussi pour répondre à ces questions-là. Comme ça, puis je prends le temps de le nommer, elle vous l'a sûrement dit, Molly, que tout ce qui est immigration, c'est très régi et c'est vraiment que les consultants qui peuvent en parler.
Ouais.
Donc, c'est pas que je souhaite pas vous.
Tu t'avances pas, là. C'est juste que. Mais en plus, ça change tellement souvent. Donc, je posais la question au cas où, si tu étais au courant.
C'est une bonne question.
Fait que c'est ça. Donc, au niveau des admissions, c'est quand même vraiment les notes qui vont compter. Ouais. Puis,
C'est beaucoup ce qui va compter, effectivement. On parle de relevé de notes, mais on peut également parler de relevé de notes moyenne académique, puis aussi, en fait, là, de niveau de français. Dans le cas des étudiants français qui complètent un bac français, finalement, ou encore des étudiants de Belgique francophone qui complètent un certificat d'enseignement, finalement, ces étudiants-là, finalement, n'ont pas à faire de test de français au préalable.
Okay.
Toutefois, les étudiants qui proviennent de d'autres pays, par exemple Sénégal, Côte d'Ivoire, Burundi, bref, pays francophones qui ne complètent pas un bac français ou encore un certificat d'enseignement belge francophone, il faut faire un test de français avant l'admission, avant de soumettre la demande d'admission.
Okay.
C'est ce qu'on suggère fortement. Puis les niveaux sont indiqués. Donc, on parle vraiment des niveaux finalement entre... je vais dans le jargon un peu, le B2, C1.
Souvent, des niveaux quand même élevés pour se débrouiller correctement à l'université, pour qu'on réussisse, en fait, tout simplement. Là.
Exactement. Même si ça reste un pays, souvent, beaucoup d'étudiants, par exemple haïtiens, qui indiquent, nous, on a fait nos études en français, on est un pays francophone, est-ce que j'ai besoin de faire un test de français? La réponse est oui, parce qu'il n'y a pas eu d'obtention d'un bac français.
C'est pas à noter comme ça sur le diplôme, dans le fond. En fait. Pour vous, c'est pas concret, disons?
En fait, on sait qu'on est bien au courant que lorsqu'ils nous parlent, les étudiants parlent très bien français. Lorsque mes collègues, Yacine est allé en Côte d'Ivoire au Sénégal, le français oral est super bon. Il n'y a, n'y a pas de doute à y avoir, mais en même temps, les programmes exigent vraiment ce niveau de français-là, écrit, compris également, pour vraiment que l'étudiant ait pas, ne soit pas finalement
En difficulté
au début de son trimestre.
Finalement. Puis est-ce que c'est sur le site web qu'on peut trouver ça aussi? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des tests spéciaux, un peu comme en anglais, là, TOEFL, TOEIC, tout ça. Mais pour le français, j'imagine que ça doit être des spéciaux que ça prend.
Oui, c'est dans des centres de tests déjà affiliés, effectivement. On a la liste en ligne et surtout les exigences. Ce n'est pas tous les programmes qui exigent un test de français, mais certains le demandent, en fait. Comme par exemple, le baccalauréat en communication, il faut vraiment avoir un français parfait pour y accéder.
Parce que c'est très axé sur le français. Moi, c'est ce que je fais. Puis, hey, les cours de français, là, c'est ça. Il faut parler français correctement.
Très précis, effectivement. Ouais. C'est une particularité qu'on a, mais en même temps, c'est ça. Mm-hmm. Pour les tests, ça permet vraiment de... Puis ça, on suggère fortement aux étudiants de compléter ce test-là avant de poser la demande, parce qu'il peut y avoir un délai entre faire le test puis ensuite recevoir le résultat, parce que si l'étudiant, bien qu'il peut avoir une très bonne moyenne, n'a pas son résultat de test de français,
ça passera pas.
Ça pourrait ne pas passer, effectivement, tout dépendant du délai dans lequel il l'envoie lors du processus d'admission.
Fait que c'est quand même bon à savoir, là, tout ça. C'est à prendre en compte dans tous nos délais, parce que les étudiants internationaux, là, on a des délais pour tout.
C'est ça.
Donc, c'est quand même à prendre en compte. C'est combien de temps environ? Est-ce que tu as une idée au niveau du délai de résultat? Est-ce que c'est comme en mois qu'on parle ou plus en semaine? Ou ça dépend de chaque endroit aussi?
C'est une excellente question. Ça malheureusement, je n'ai pas la réponse, mais c'est certain que si, par exemple, l'admission de l'automne est au 15 janvier, on suggère de faire le test peut-être en octobre ou en
le octobre plus tôt ou novembre. Possible.
C'est ça, parce que ça, de toute façon, ces résultats-là, je pense qu'ils sont bons une année. Serait à valider, ça, pour être bien franc. Mm-hmm. Mais ces tests-là, finalement, sont quand même valides une bonne durée, ce qui fait qu'ils seront quand même valides lors de l'admission aussi.
Mm-hmm.
Donc, c'est pour ça que ça, nous, on suggère fortement aux étudiants, avant de déposer la demande, vérifier la moyenne académique, vérifier ce qu'on est admissible selon notre profil versus le programme qu'on recherche. Ouais. Puis également, côté du test français, est-ce qu'on a le résultat requis aussi?
Est-ce qu'on a des frais? Parce que parfois, faire tout document, en fait, ça coûte de l'argent, surtout au Canada. Est-ce qu'on a des frais quand on fait une demande d'admission?
Oui, ça, c'est important. Effectivement, les frais de dépôt de la demande d'admission, en fait, là, ce qu'on appelle des frais d'ouverture et de traitement de dossier, précisément, ces frais-là sont importants à payer. En fait, on parle de 101 $ canadiens. Puis ça, en fait, là, c'est pour que l'étude du dossier soit faite.
Okay.
Donc, ça veut dire que si on ne paie pas ces frais-là, lorsqu'on dépose la demande d'admission, puis bon, il faut vraiment regarder chacune des étapes, là. C'est ordonnancé sur le site de l'université, mais en même temps, il ne faut pas oublier cette étape-là, parce que si on ne paie pas ces frais-là, la demande sera simplement, ne sera pas analysée.
Okay.
Le dossier sera fermé ensuite. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment... puis fermé, en fait, là, puis ça n'a pas d'impact négatif, outre que la demande ne sera simplement pas analysée.
Mm-hmm.
Puis en même temps, si... donc, ce qui fait qu'il faut vraiment payer ce 101 $-là canadien pour que on puisse procéder à l'analyse du dossier, qu'il y ait une offre ou un refus. C'est nécessaire pour que l'analyse, en fait, débute du dossier, ou du moins s'amorce en temps et lieu.
Puis s'il y a un refus, on n'est pas remboursé. Il faut bien le dire, parce qu'il y a parfois, on se dit, ah, j'ai été refusé, ben, je vais me faire rembourser, mais non, là, j'ai payé ça pour qu'on analyse. Oui, non, puis malheureusement, après, ce n'est plus votre problème.
C'est ça. Effectivement, ces frais-là ne sont pas remboursables. Il faut vraiment vérifier, en fait. Il faut vraiment, les payer, évidemment, mais malheureusement, ce n'est pas des frais qui sont remboursables, mais c'est nécessaire pour qu'on puisse analyser le dossier.
Mm-hmm.
C'est 1 $ canadien non remboursable. Bon, peut-être le taux de change va aider dans tout ça.
Oui, ouais. Mais il n'y a pas d'autres frais inhérents à la demande d'admission. Là. Juste ce 101 $-là, puis après, ce sera plus dans notre baccalauréat qu'on aura des choses à payer, puis on aura le détail de notre session, etc. Mais lié à l'admission, c'est vraiment juste ça.
C'est vraiment les frais d'ouverture de traitement de dossier, c'est 101 $-là canadien. Puis il y a peut-être d'autres frais qui viennent ensuite lorsqu'on a reçu l'offre d'admission.
Ouais.
Ça, c'est-à-dire qu'il faut l'accepter en ligne dans le délai, mais aussi ce qu'on appelle payer le dépôt de confirmation. Ça, c'est beaucoup pour les programmes de premier cycle, donc des programmes de baccalauréat au Québec auxquels ça s'applique. Donc, on parle de 1 272 $ canadiens.
Okay.
Puis, en fait, ces frais-là se divisent de 300 $ de dépôt de confirmation pour confirmer sa place dans le programme. La date limite, elle est indiquée sur la lettre d'offre d'admission.
Oui.
Et 972 $ d'assurance maladie qui est nécessaire à être obtenue. Qui est nécessaire finalement à être payé si on va être sur le territoire canadien.
Puis si jamais on n'a pas déposé de demande d'admission, mais qu'on a des questions, est-ce qu'on peut quand même écrire à Sherbrooke International? Parce que parfois, c'est un peu une crainte d'écrire à des universités où on n'est pas étudiant, où on n'a pas fait de demande d'admission. Est-ce que vous pouvez répondre à nos questions, même quand on n'est pas encore étudiant?
On est là justement pour ça. Moi, c'est ça mon travail, de répondre à ces questions-là. On a bâti une foire aux questions qui est justement précisément sur les questions des étudiants
qui reviennent le plus,
exactement. C'est ce qu'on a sur le site Sherbrooke International. On l'a bâti vraiment à l'aide des mails qu'on reçoit à cette adresse-là.
Okay.
Et la grande majorité des réponses y sont. Si, par exemple, on n'a pas la réponse, en bas de la page, finalement, il y a un formulaire qu'on peut compléter
okay.
et indiquer notre question si elle ne s'y retrouve pas. La grande majorité du temps, les réponses y sont, mais ce n'est pas là. Il y a moyen de nous rejoindre via ce formulaire.
Oui, c'est vraiment des cas précis, là, qui ne se retrouveraient pas dans cette foire aux questions, en fait.
Exact. Puis nous, on peut, sans problème aussi, arranger des rencontres via Teams ou encore téléphonique, sans problème aussi.
OK. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour les étudiants internationaux qui voudraient déposer une demande d'admission? Ben, tu l'as dit, là, évidemment, tout ce qui est admissibilité, bien regarder, prendre le temps aussi de choisir son programme, j'imagine. C'est quand même des choses qui sont importantes. Mais...
Oui, tout à fait. Prendre le temps de regarder un peu c'est quoi la formule à l'université. Évidemment, on parle d'enseignement nord-américain. On parle d'un campus à l'américaine aussi.
Oui.
Tout est au même endroit. Donc, ce qui fait que c'est très pratique, très concret, avec de l'alternance, des stages, ce qu'on appelle des stages coop ici, donc de l'alternance. Mm-hmm. Mais on n'est pas à deux semaines. On parle de 4 mois d'études, 4 mois de stage. Donc, on est vraiment dans le terrain. On est dans le concret. On est vraiment un élément plus nord-américain.
Mm-hmm.
Voir un peu est-ce que ça, c'est quelque chose qui nous convient comme formule aussi.
Oui.
Mais en même temps, on va avoir plusieurs séances d'information, la présentation de l'université de manière générale, que moi et mon collègue Yacine donneront au trimestre d'automne.
Okay.
Ça peut être un bon moyen de, si on n'est pas près des salons auxquels on mm-hmm. va faire à l'automne, bien, on peut sans problème s'inscrire à ces séances d'information-là qui seront mises en ligne, là, finalement, en septembre prochain.
Pour voir si ça nous correspond, en fait, tout simplement.
Exactement. Okay. Comme ça, nous, on peut également répondre live aux questions, mais également, justement, en savoir plus de manière générale sur l'université.
Oui, puis pas hésiter à poser des questions. Je pense que c'est aussi une des grandes choses que toutes les personnes qui sont venues dans ce balado ont dit, parce que vous êtes là pour ça. Là, tu disais, c'est ton travail, tu sais, d'accompagner les étudiants, puis... C'est ça. Là, on est là pour ça, à l'université. Il y a beaucoup de ressources, fait qu'autant les utiliser.
Exact. C'est vraiment très particulier. On est là pour vous accompagner pour la demande d'admission. On sait que c'est un processus qui est complexe et compliqué, mais en même temps, on est là pour simplifier le tout, pour que ça soit le plus facilitant possible. On est là pour ça.
Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Félix, pour tous ces beaux conseils puis toutes ces petites choses-là qui sont quand même importantes à savoir, qu'on ne sait pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le site web, très honnêtement, mais on va rediriger vers les bonnes pages. Je te remercie beaucoup pour toutes tes précisions.
Merci, Emma.
Tu viens d'écouter un nouvel épisode d'Ici à l'UDS. Retrouve tous les liens et éléments dont on a discuté en description. On se retrouve dans un prochain épisode pour aborder un autre thème lié à l'arrivée à l'université.